l'entretien littéraire de Mathias Hénard.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. Un entretien littéraire un peu spécial en ce jour de Noël, puisque j'ai la joie de converser avec Frédéric Boyer au sujet de sa nouvelle traduction des Évangiles, donc une nouvelle, bonne nouvelle en quelque sorte, parue aux éditions Gallimard. Cette traduction comprend les quatre Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais comme il ne s'agit pas de faire concurrence aux émissions religieuses du dimanche matin sur France Culture, ce qui va nous intéresser ici, c'est la question de la littérature plus que la théologie, la traduction plus que le miracle, quoique. Bonjour Frédéric Boyer.
Bonjour.
Frédéric Boyer, vous êtes romancier, poète, traducteur et éditeur, à la tête des éditions POL depuis la disparition de leur fondateur, Paulo Tchaikovsky-Lawrence. J'ai eu la joie de m'entretenir avec vous en 2021 à l'occasion de la sortie de votre dernier roman en date, Le Lièvre, paru lui aussi aux éditions Gallimard. Comme traducteur, vous avez traduit des textes très divers, des confessions de Saint-Augustin sous le titre Les Aveux, jusqu'au Kama Sutra en passant par la chanson de Roland. Et cet automne est paru votre traduction des Évangiles. Frédéric Boyer, vous aviez coordonné et édité pour les éditions Bayard, il y a plus de 20 ans, une traduction de la Bible. Est-ce par là qu'a commencé cette aventure évangélique ?
Eh bien oui. Non, effectivement, parce que c'était une traduction donc collective. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de vraiment redécouvrir ces textes et surtout de me poser plein de questions. J'ai trouvé que ces textes étaient une énigme, finalement, une énigme littéraire. On ne sait pas à quel genre les rattacher dans la littérature de l'Antiquité. Donc, il y a quatre textes qui sont supposés raconter la même chose. En fait, ça raconte pas tout à fait la même chose. Ces quatre voix sur un même enseignement, un même événement, mais pourtant, à chaque fois, les choses sont décalées, déplacées. Écrits dans une langue, en tout cas, ils nous sont parvenus tels, dans une langue, le grec, du 1er siècle, donc la langue de l'échange, à la fois culturel, commercial, enfin, dans cet empire gréco-romain. Une langue qu'on sait plus à décrire comme une langue un peu pauvre, rustre, finalement. On a même dit que ça s'apparentait un peu au globish anglais aujourd'hui, bon, ce que je ne crois pas du tout, moi, d'ailleurs. Ouais. Donc, toutes ces questions, à la fois de témoignage, de langue, de genre littéraire, m'ont intrigué, et donc, progressivement, je suis allé faire une petite enquête personnelle.
Mais est-ce que c'est parce que vous aviez déjà traduit les Épîtres et les Actes des Apôtres qui ne se trouvent pas dans ces Évangiles, ou est-ce que vous vouliez vraiment vous concentrer sur, non pas sur ce qu'on a coutume d'appeler le Nouveau Testament dans son ensemble, mais uniquement sur la parole évangélique?
J'ai voulu me concentrer uniquement sur ces textes, parce que ces textes sont, en quelque sorte, le noyau de tout ça, voilà. Et quand même, ils forment un ensemble en soi. Alors, on peut y ajouter les Actes des Apôtres de Luc, qu'on rapproche à juste titre de l'Évangile de Luc, mais les Épîtres, évidemment. Mais c'est ces textes-là qui forment un ensemble, quand même. Alors, au-delà de ce qu'on va appeler le Nouveau Testament, il y a d'abord ce noyau fait de ces quatre textes. Et ces quatre textes disent quelque chose de particulier.
Ils sont quatre aujourd'hui, mais ils ont longtemps été beaucoup plus nombreux.
Ils ont été plus nombreux, même, on ne sait pas tout d'ailleurs, il y en a peut-être qu'on ne connaît pas encore. Alors effectivement, ça a mis en gros 3-4 siècles avant que ces quatre soient retenus par le premier canon chrétien, évidemment, que l'on date à la moitié du 5e siècle. Mais d'abord, ce n'est pas un hasard si c'est ces quatre-là qui ont été retenus. Les autres sont parfois plus tardifs, ou dans d'autres traductions, ou écrits dans d'autres langues, comme le syriaque. Donc voilà, donc là on a ces quatre textes rédigés en grec, entre la moitié du 1er siècle jusqu'à la fin du 1er siècle, peut-être même le début du 2e siècle. Et voilà. Et puis, c'est ces quatre-là qui ont été retenus. Donc, j'ai voulu les traduire et les étudier telles quelles. Voilà. Comme une œuvre en soi, finalement.
Traduire et étudier, vous venez de le dire, donc une préface, mais aussi, est-ce que pour vous traduire, c'est élucider ?
En tout cas, j'aimerais bien, mais souvent, on n'arrive pas à tout élucider, voilà. Donc la traduction, elle doit accepter les échecs, elle doit accepter les failles, elle doit accepter les obscurités, puisque de toute façon le passage, le transport, comme on dit autrefois, là, d'une langue à une autre, forcément, ce transport est une aventure. Croire que l'on peut, de façon transparente et claire, effectuer ce voyage, en quelque sorte, d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, d'un temps à un autre, c'est complètement illusoire. Donc il faut, je pense, qu'une bonne traduction, elle doit faire entendre les vicissitudes du voyage, en quelque sorte. Voilà.
Frédéric Boyer, est-ce que c'est la traduction d'un chrétien ? Est-ce qu'il faut être chrétien pour traduire les Évangiles ?
Non, il ne faut pas être chrétien au sens d'un acte de foi. Mais il faut quand même connaître le christianisme.
Mais vous savez, pourtant, il y a cette histoire de miracle. La traduction, pour les chrétiens, et notamment les catholiques, les latins, c'est pas rien. C'est-à-dire que le fait de translater dans une autre langue a tenu longtemps du miracle collectif, mais néanmoins du miracle.
Tout à fait, depuis la Septante. D'ailleurs, dans la Septante, cette première traduction de la Torah en grec à Alexandrie par la diaspora juive d'Alexandrie, qui était une importante diaspora au 3e siècle avant Jésus-Christ. Je signale ça, donc effectivement, avec cette légende de 70 traducteurs qui ont tous traduit la même chose, puisqu'ils étaient apparemment inspirés par l'Esprit Saint, donc ils avaient de la chance, moi je pense que ça n'a pas été tout à fait mon cas, mais donc effectivement, et cette traduction d'abord en grec au 3e siècle de la Torah, elle va déterminer cet ouvrage, les évangiles, puisque la langue des évangiles doit énormément à cette traduction de la Torah en grec. Et oui, après, la traduction, c'est une aventure qu'on peut, effectivement, en tout cas dans tout le monde romain, ça a été, un puissant effet de culture. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'Empire romain sans comprendre cet énorme effort de traduction et d'adaptation et de translation qui a été fait par le latin de tout l'héritage hellénistique, par exemple.
Est-ce que la figure de Saint Jérôme, par exemple, vous inspire?
Bah, d'autant plus que Saint Jérôme est entré en discussion, en tout cas, on a une correspondance entre Jérôme et Augustin, et notamment à propos de la traduction. C'est-à-dire que quand Jérôme entreprend ce vaste projet de refondre, en quelque sorte, la Bible, qu'on n'appelait pas la Bible encore à l'époque, mais les saintes écritures, de les refondre dans un latin contemporain, enfin, en tout cas, de son époque, parce qu'il juge nécessaire d'harmoniser et, en quelque sorte, de réinventer ces écritures-là dans le latin qu'il parlait et qu'il écrivait. Il écrit son projet à Augustin qui immédiatement, comme vous, lui dit « mais tu ne peux pas faire ça, hein, puisque on a reçu les saintes écritures en grec et donc on ne peut pas les traduire ». Donc effectivement, la traduction de ces textes est toujours, et même encore aujourd'hui d'une certaine façon, c'est toujours se poser des questions sur quelle langue peut recevoir ça? Voilà. Est-ce qu'on peut tout transmettre et tout transposer?
Mais une fois de plus, est-ce que c'est pas le texte lui-même qui nous donne la solution? Puisqu'il y a, dans les Actes des Apôtres, ce moment où les apôtres reçoivent le don des langues, qui précise justement qu'en réalité, les langues dites étrangères sont là où va se réaliser la mission apostolique. Et donc, a priori, on pourrait déduire de cela que les évangiles ont vocation à être traduits.
Et tout à fait. Et c'est la réponse de Saint Jérôme à Augustin, qui lui dit, notre Seigneur, c'est incarné, donc nous devons nous incarner les écritures dans toutes les langues que parlent les hommes. Voilà, donc c'est ça, c'est la réponse. Mais une réponse un peu plus, scientifique, entre guillemets, c'est que la langue des évangiles, ce grec des évangiles, c'est un grec de traduction. C'est-à-dire que ces évangiles, c'est déjà une traduction, puisqu'on a reçu donc ces textes en grec, et moi je ne fais pas du tout partie de ceux qui imaginent ou qui pensent qu'il y ait eu avant ces textes écrits, je dis bien écrits, des textes par exemple en araméen ou en hébreu même. En syriaque, ça c'est un peu plus compliqué, je pense qu'il y en a eu, mais ça a été un peu plus tard. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait eu de tradition écrite en araméen d'un noyau évangélique. Bon, il y en a beaucoup qui le pensent, moi je ne le pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est très important d'imaginer que ces textes aient tout de suite été écrits dans la langue des échanges multiculturels de l'époque, qui était le grec. Et surtout, on voit dans le texte évangélique les traces de la traduction, puisqu'il y a des mots hébreux qui sont traduits en grec, puisqu'à chaque fois, on fait l'effort, ne serait-ce que le mot le plus célèbre de ces textes, qui est le mot « rabbi ». Voilà, on appelle les évangiles ce Yeshua, ce Jésus, on l'appelle « rabbi », et on traduit le mot « rabbi » en maître, en grec, pour expliquer ce que c'est. Donc, c'est un texte qui porte les traces et les cicatrices, en quelque sorte, de la traduction.
Frédéric Boyer, j'ai l'impression, enfin c'est plus qu'une impression, parce que vous l'explicitez dans votre préface, que vous voulez ramener justement dans votre traduction un peu les évangiles à leur début hébreu justement, c'est-à-dire à ce moment très très spécial qui correspond à l'histoire que racontent ces textes, qui est en fait un moment très juif, et pas du tout encore ce qu'il va devenir par la suite, c'est-à-dire un moment chrétien.
Oui, petite phrase en forme de provocation, je dis ces textes ne sont pas chrétiens, ils le sont devenus. En tout cas, ces textes, effectivement, témoignent de quelque chose, témoignent d'une tradition de mémoire sur l'enseignement d'un jeune rabbi au 1er siècle de notre ère, qui probablement devait être un espèce de maître de la Torah orale, ce qu'on appelait la Torah orale, c'est-à-dire les commentaires, les discussions, l'enseignement de la Torah écrite. Et l'une ne peut pas aller sans l'autre. La Torah écrite ne pouvait pas, et ne peut toujours pas d'ailleurs, dans la tradition juive, se comprendre sans cet effort de discussion orale, d'échange, donc d'enseignement. Et apparemment, c'était un maître de cette discussion, puisqu'il a frappé les esprits au point de susciter ces traditions, d'abord orales, puis un peu écrite. Et si on lit les évangiles simplement, on se rend compte que d'abord, il est question de quoi? Il est question d'un jeune rabbi qui passe son temps, en quelque sorte, à enseigner dans les synagogues de Galilée et de Judée, jusqu'au temple de Jérusalem, où on dit, alors est-ce que c'est les rédacteurs qui ont un peu légendé l'histoire, mais enfin, dans les évangiles, on le voit discuter avec les plus hautes autorités religieuses de Judée. Il est invité, il est même invité à manger chez des hauts dignitaires pharisiens. Voilà, donc Le cœur de ces textes, c'est l'enseignement d'un jeune rabbi. Et cet enseignement va provoquer quelque chose.
Voilà. Et pourtant, Frédéric Boyer, et c'est un peu une des caractéristiques de votre traduction, et vous ne traduisez pas par le mot juif, Jésus n'est plus roi des juifs, mais roi des judéens. Et donc on a l'impression qu'à la fois, vous le ramenez à ce qu'il était à ce moment-là, rabbi, et ainsi de suite, mais en même temps, le mot qui était d'habitude dans les traductions, qui était juif, vous le transformez pour judéen.
Le mot juif, c'est un mot tardif. Le mot juif, c'est une traduction. Donc effectivement, aujourd'hui, mais Yudayoy en grec, ça ne désigne pas les juifs, ça désignait les judéens. D'ailleurs, c'est la translittération du grec. Voilà, donc il s'agit bien des judéens et de la religion judéenne, dont le noyau était effectivement central, était à Jérusalem et en Judée, mais il y avait des diasporas judéennes, il y avait, voilà. Et la deuxième raison, c'est que le mot juif, si on l'emploie dans la traduction de ces textes, je trouve... constitue pour moi une sorte de stigmate de la judéophobie et de l'antisémitisme qui va naître à partir de ces textes-là et d'une certaine histoire de...
Mais est-ce que c'est aussi un anachronisme pour vous ?
Ben pour moi, c'est un anachronisme, ouais. Voilà. C'est un anachronisme. Mais c'est un anachronisme un peu dangereux aujourd'hui, voilà. Enfin, dangereux, non, mais en tout cas, il est question de judéens et ces textes, même l'évangile de Jean, dont on dit qu'il est parfois le plus violent envers les juifs, l'évangile de Jean n'est pas violent envers les juifs. L'évangile de Jean est violent envers les autorités judéennes du temple, principalement. Et l'évangile de Jean se situe, probablement sa rédaction, c'est la fin du 1er siècle, peut-être début du 2e siècle, où il y avait les premières exclusions des synagogues de certains partisans de ce rabbi Jésus. Mais ces évangiles ne racontent pas un rabbi contre ses frères juifs. Ça, pour moi, c'est une légende, c'est une interprétation qui est extrêmement dangereuse. Ces textes racontent les discussions qui étaient toujours très vives. Ouvrez le Talmud et vous verrez que c'est d'abord... toutes les discussions, tous les sujets en jeu dans les évangiles, vous les retrouvez dans le Talmud, avec la même violence, avec les mêmes oppositions, avec les mêmes choses. Donc, c'est pas ce rabbi qui était contre les siens. La première force de cet enseignement, c'est de restituer la vivacité des débats dans une société et dans une religion qui était véritablement en crise, voilà, en crise et en opposition parfois.
Frédéric Boyer, vous dites ces textes racontent. Est-ce que c'est pas justement le, vous comme traducteur, un peu l'objectif que vous avez eu, c'était de ramener ces textes aussi à leur récit, c'est-à-dire de retrouver ce qu'il peut y avoir de puissance du récit en eux. En tout cas, c'est comme ça qu'on lit
cette traduction. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous lisez le grec de ces textes, vous êtes frappé quand même de la force performative de ces narrations. Voilà. L'idée n'était pas tellement de faire ce qu'on appellera plus tard une histoire sainte, même si moi j'aime bien des fois les histoires saintes, mais là c'était pas ça. L'idée était vraiment de collationner non seulement toute une série d'anecdotes, d'histoires, de points d'enseignement, mais surtout de faire entendre la force performative d'une parole à travers la narration. Voilà. Donc c'est très impressionnant, comme à chaque fois il s'agit de mettre en scène une action et de mettre en scène le pouvoir de la parole sur les corps, sur les êtres, sur les discussions. Voilà.
Frédéric Boyer, maintenant le livre existe, ces évangiles sont publiés, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des moments, pas de découragement, mais où on se dit ces textes ont tellement été traduits, ont tellement été commentés, c'est tellement devenu un océan de textes que... revenir au point de départ, ça demandait d'abord un travail absolument colossal, mais en même temps, est-ce qu'on se remet pas en question tout le temps en se disant, finalement, qui suis-je pour passer après les siècles, en tout cas pour essayer de revenir au point de départ?
Oui, c'est vrai. Je vous dis, mais à coup pas. Non, mais c'est vrai que c'est à la fois impressionnant, c'est difficile. C'est un travail qui a occupé 8 ans de ma vie à peu près, voilà, enfin pas à temps complet, mais enfin quand même pas mal. Et c'est vrai qu'on se remet en cause tout le temps, et que même dans ma traduction, j'avoue qu'il y a j'ai fait des choix qui témoignent de cette difficulté. Par exemple, ce que j'appelle les doubles traductions, les traductions au carré, c'est parce que finalement, comment voulez-vous traduire le mot logos dans l'évangile de Jean ? C'est impossible.
Ah, mais j'allais y venir justement. Très bien que vous preniez cet exemple. On va le prendre ensemble si vous le voulez bien, parce que ça, c'est quelque chose qui frappe le début de l'évangile de Jean qu'on connaît à peu près tous. Vous le traduisez ainsi. Au commencement était le verbe parole, et le verbe parole était pour le Dieu. Ouais. Donc le verbe parole, c'est le logos grec.
Ouais. Le logos grec, à ce moment-là, c'est justement la parole comme discussion, la parole comme échange, la parole comme discours, mais au sens où le discours, c'est celui qui informe et décide du monde. Voilà. Donc c'est quand même ça, là, le logos. Alors, comment traduire ça dans un mot en français ? J'ai pas trouvé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai traduit verbe parole, parce que d'abord, c'était prendre un peu les deux mots en français qui sont concurrencés, et j'ai trouvé que c'était beau de les associer comme ça dans une expression. Et le second point difficile de ces premiers versets, c'est le pros grec que je traduis par pour.
Alors là, auprès d'habitude, non,
voilà,
c'est ça.
Moi, je suis très fier de ma traduction. Là, c'est, enfin, je suis pas fier de beaucoup de choses, mais là, je pense que vraiment auprès. D'abord, le pros grec ne signifie pas auprès d'eux, c'est pas vrai. Parce que le problème de ces textes, c'est un empilement comme un feuilleté de traductions. Donc, notre brave saint Jérôme, dont vous avez parlé, a traduit ce pros par apud. Voilà. Donc, apud, effectivement, c'est auprès. C'est en... Mais le pros est plus large et plus complexe d'une certaine façon en grec. Et la plupart du temps, le pros, c'est une destination ou un but. Voilà. Là, j'ai trouvé que c'était beau, en tout cas, de faire entendre ça. C'est-à-dire que le verbe était destiné au Dieu. Voilà. Il est pour le Dieu. Voilà. Parce que après, il faut arriver à comprendre d'un point de vue théologique pourquoi ensuite on dit de façon très très rapide, c'est assez magnifique hein, comme texte. Tout de suite, on dit, ben donc, le verbe, c'est Dieu, voilà. Si le verbe est destiné, en quelque sorte, au Dieu, ça veut dire que Dieu est le verbe.
Est-ce que ça ne pouvait pas être à la place de ce sens de ce pros?
Alors ça, théologiquement, là, ça serait assez dangereux de traduire ça, mais pourquoi pas?
Est-ce que ces questions théologiques, justement, ont été pour vous des vraies questions au moment de traduire? Ou est-ce que vous laissiez plus aller, disons, une certaine liberté, qu'on pourrait appeler une liberté de conscience, dans ce cas-là? Ou est-ce qu'au contraire, il fallait quand même que les textes, comme on vient de le voir, soit quand même respectueux du dogme?
Ah non, ça, j'ai pas voulu être respectueux du dogme du tout, mais les questions de traduction, en l'occurrence, sont souvent des questions, la plupart du temps, théologiques. Enfin, en tout cas, vous entraînent à revisiter le dossier théologique. Par exemple, le mot faute, le mot amartia en grec, qu'on traduit par faute ou surtout par péché, qui est la traduction latine, peccatum, par exemple, ça pose un vrai problème. Voilà, si on veut pas traduire par faute ou par péché. Donc, moi, je traduis par manque, par erreur, par manquement, voilà. Et c'est vrai. Bon, voilà. Donc, je pense d'ailleurs que c'est pas une mauvaise traduction du mot grec et même du mot hébreu qui est sous le grec. Mais, c'est vrai que ça peut choquer d'un point de vue théologique, effectivement.
Mais est-ce que la philologie lutte pas contre la théologie, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre les deux pour le traducteur du 21e siècle?
Si, bien sûr. Mais pas que pour le traducteur du 21e siècle. Mais en tout cas, bien sûr, oui. C'est une espèce de conflit interne. C'est un peu un conflit d'interprétation, voilà. Mais bon, moi, tout ce que j'espère, c'est que la traduction rende intéressant ce conflit-là, voilà. Moi, je dis pas qu'il faut définitivement finir avec le péché, hélas, qui suis-je pour avoir ça, mais par contre, je dis c'est intéressant, tu vois, de s'interroger, d'avoir une herméneutique en quelque sorte, et de dire, bah voilà, vous avez ce mot-là, et ben finalement, on est tendu entre péché, manque, manquement, erreur, et voilà. Et c'est vrai que libère-nous de nos manques, dans le Notre Père de Matthieu, je sais pas si elle dit autre chose, mais en tout cas, ça fait entendre quelque chose, et ça pose des questions, et je pense que les meilleures traductions sont celles qui font un mouvement un peu d'ampliation, comme ça, qui, ce que vous croyez avoir déjà reçu, voilà.
Et Frédéric Boyer, vous traduisez pour qui, alors? C'est-à-dire qu'il est le lecteur?
Je traduis pour moi, d'abord, parce que je suis en discussion avec moi-même. Voilà. Là, par exemple, sur manque, péché, c'est une discussion, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Donc, je suis un peu en discussion avec, moi, je suis un lecteur. Quand je suis traducteur, je suis un lecteur, donc je lis et je suis en discussion avec moi-même. Je suis pas content de ce que je comprends, je m'interroge sur ce que je comprends pas, voilà. Et donc, traduire, pour moi, ça a toujours été ça, finalement. Ça a toujours été un moment où je me pose ces questions-là et j'essaye de les résoudre, ou en tout cas, ou de les ouvrir, etc. Alors après, j'espère que ça intéresse d'autres gens que moi, mais ça, c'est une autre question.
Un autre aspect qui est assez fascinant de cette traduction des évangiles, c'est son rapport au grec. Alors moi, qui suis très très peu helléniste, on reconnaît, par exemple, ce qu'est. Et, ouais. Alors ça, vous en usez et abusez, ouais. Mais c'est magnifique, il y a des endroits où tout d'un coup on est, et il arrive, et il est là, et soudain il revient, et ça donne vraiment un côté presque théâtral, immédiat à ces récits.
Bah, c'est-à-dire d'abord c'est quelque chose que quasiment personne ne traduit, mais depuis qu'on a commencé à traduire les évangiles, c'est-à-dire effectivement... C'est une espèce de particule, on dit dans les grammaires grecques, c'est un intensif. Un intensif de quoi, ça mystère? Alors, en fait, c'est un intensif de la parole, c'est-à-dire c'est... Mais vous avez ça chez Homère, hein, dans l'Odyssée, on en trouve beaucoup, comme ça. Et c'est un petit mot qui n'a pas de signification propre, de coordination, mais aussi qui marque le rythme de la parole dans la phrase, dans le vers, dans la prise de parole. Et essayer de le faire entendre dans la traduction, c'est effectivement donner tout d'un coup à ces textes leur ampleur un peu théâtralisée. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, c'est des prises de parole, de contestation, et puis aussi, c'est un peu l'art du conte, parce qu'on le dit très peu, mais c'est quand même des textes qui empruntent beaucoup à l'art de conter, même à l'art des aèdes, hein. Alors, on n'est pas chez Homère, mais c'est un peu la même chose. Ces textes sont nés de traditions orales, qui étaient comme des traditions d'aèdes, mais là, c'était des conteurs impliqués par le témoignage et l'enseignement de ce rabbi, mais c'était aussi des conteurs, voilà. Et les évangiles témoignent de cet art de conter.
Et est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des éléments, parce que bon, j'ai reconnu celui-ci, mais peut-être vous avez choisi d'en appliquer d'autres.
Non, mais il y en a beaucoup. Il y a toutes les formules grecques sur les conjonctions de temps, de lieu, qui sont des formules qui insistent sur les notions de temps et de lieu, que souvent en français on va simplifier pour que ce soit écrit dans une belle langue souple et simple. Et moi, je les ai renforcées, voilà.
Oui, comme vous renforcez, enfin, vous ne rechignez pas aux répétitions, par exemple.
Les répétitions, elles sont dans le texte grec, voilà. Donc, moi, je trouve, et ça fait partie de cet art de compter, c'est-à-dire on martèle le truc, on répète.
Oui, et respecter une espèce de simplicité aussi du texte originel, notamment un petit passage que je trouve absolument magnifique. Bon, c'est le fameux moment de l'évangile de Matthieu, l'affaire de Pierre et du coq. À la fin, ils lui disent à Pierre. Donc là, vous voyez, vous répétez le pronom et l'adresse. La vérité, c'est que toi aussi, tu en es. Oui, ta façon de parler t'a trahi. Alors, il se met à lancer des anathèmes et à jurer ainsi. Non, je ne connais pas l'homme. Et soudain, un coq crie. Oh lui, Pierre se souvient des mots de Jésus. Il avait dit ceci. Avant le cri d'un coq, trois fois tu m'auras renié, moi. Il sort à l'extérieur et pleure amèrement. On voit bien les anaphores de ses pronoms, il m'aura renié,
oui,
moi.
Ça, c'est vraiment dans le texte grec, hein. C'est vraiment dans le texte grec. Mais c'est vrai que quand on traduit en français un français entre guillemets correct ou élégant, on ne fait pas ça, voilà. Mais c'est dommage parce que ces textes-là sont des textes qui restituent quelque chose de l'oralité, de la vivacité, de la parole. Donc, je trouve que ça donne une force tout d'un coup au texte, voilà, qu'on n'avait pas, peut-être pas tout à fait entendu.
Mais ça, c'était un parti pris que vous aviez dès le départ.
Ah oui, oui, c'est dès le départ, oui. Parce que, justement, parce que, le cœur de ces textes, leur énigme en quelque sorte, puisqu'on parlait d'énigmes tout à l'heure, c'est d'essayer de restituer la force d'une parole. Je crois que ces témoignages, à la fois oraux puis après écrits, ça n'est pas forcément pour raconter la vie de ce rabbi, ça n'est pas simplement pour raconter l'enseignement en tant que doctrine, finalement, ce que ça raconte ce que tout le monde savait déjà à l'époque, de toute façon, donc c'est pas... C'est de raconter la force d'une parole, que cette parole a touché, elle a ému, elle a frappé, elle a même guéri des corps, elle a... Et la force de la parole, c'est justement l'évangile, hein. C'est le fait qu'une parole soit annoncée et que cette parole provoque un changement. C'est le cœur de ces textes, c'est pour ça que c'est un genre littéraire très étrange et à mon avis... un peu inventé, enfin c'est une nouveauté dans la littérature de l'Antiquité, voilà où on travaille la question de la performance de la parole dans l'écrit, voilà.
Et est-ce que vous, en traduisant, est-ce que vous lisiez ces textes à haute voix? Est-ce que justement vous essayez de retrouver quelque chose de l'ordre de l'oralité aussi dans cette version française?
Bah, si, oui, c'est comme ça qu'on travaille un peu, oui, tout à fait, on essaye de voir si ça passe. Et en grec, vous pouvez essayer de rythmer les choses, et si vous lisez le texte grec en rythmant justement avec les particules, les moments où effectivement on a des répétitions, des anaphores, des répétitions de pronoms, tout ça, d'insistance, bah, ça donne un texte d'une vie différente de celle à laquelle on pensait qu'ils étaient habitués, quoi. Voilà, c'était quelque chose d'autre.
Une question qui peut paraître anodine, mais qui, à mon avis, ne l'est pas. Est-ce que vous avez traduit dans l'ordre? C'est-à-dire, quel rythme? Parce que, on a l'impression, comme ces textes, bon, il y en a trois qui racontent à peu près la même chose dans le même ordre. Et puis, il y a Jean qui est un peu à part. Est-ce que, pour vous, justement, vous avez fait comme les textes bibliques, vous avez dit, bon, ben, je vais me m'atteler à ceux qui disent d'abord la même chose. Et ensuite, à cet écueil, justement, qui est un peu mystérieux, qui est Jean.
Alors, j'ai commencé par Marc. C'était celui que je connaissais le mieux et puis que peut-être je préférais à l'époque, que j'aime beaucoup. Hein. C'est un évangile très simple, direct, voilà.
Et je m'adresse aux connaisseurs des textes, parce que personne ne connaît mieux les textes qu'un traducteur. Est-ce que la langue de ces textes est différente? Est-ce que Luc n'est pas Marc? Est-ce qu'on peut reconnaître le grec de Luc du grec de Marc, par exemple?
Oui, en tout cas, Luc, c'est vraiment l'exemple le plus facile, et Jean aussi, d'ailleurs. Mais Marc et Matthieu ont beaucoup de similitudes, même dans la langue. Probablement parce qu'ils sont tous les deux issus d'un milieu vraiment hébraïsant. Quoi, voilà. Donc, Luc, c'est en tout cas une communauté ou un rédacteur, c'est un mystère, une boule de gomme, qui viennent d'une culture hellénistique, voilà, vraiment. Et ne serait-ce que le prologue de Luc, c'est un peu une espèce de...
C'est le seul qui est adressé.
Voilà, hein, c'est un peu un signal pour dire, attention, là, on fait de la littérature sérieuse, quoi. Voilà, c'est, voilà. Et Jean, c'est déjà autre chose, on est déjà à la fin du 1er siècle, c'est non seulement un petit peu une autre langue, mais surtout dans un contexte à la fois culturel, spirituel, philosophique, vraiment différent, quoi. Voilà. Donc, effectivement, on reconnaît. Mais après, il y a plein de choses qui passent dans les quatre. Il n'y a pas que les trois évangiles dits synoptiques, parce que c'est comme si on les regardait ensemble et on avait un même texte, qui n'est pas tout à fait, même pas vrai du tout d'ailleurs, enfin bon. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui passent de l'un à l'autre, de toute façon. Donc c'est un peu le mystère de ces textes aussi, puisque c'est des traditions de mémoire qui se sont quand même fondues, fusionnées, qui ont des différences, mais qui quand même ont circulé entre elles. Voilà, c'est un processus assez étrange.
Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a, par exemple, des moments de traducteur, des choix qui ont été impossibles à prendre, à faire, par exemple? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment de traduction où vous vous êtes dit, alors là, je vais choisir ceci, mais j'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des points encore qui restent, malgré les siècles, encore mystérieux ou encore...
Non, il n'y a que ça, presque. Non, mais c'est vrai, c'est complexe. Non, mais par exemple, un petit détail, mais qui est anecdotique, mais pas tant que ça. Par exemple, j'ai francisé tous les noms. Mais longtemps, je me suis dit, mais pourquoi tu mets Marie alors que c'est Mariam? Bon, voilà. Donc ça, je regrette un peu, mais bon. Mais tous les problèmes de traduction qu'on a soulevés, par exemple, est-ce que Libère-moi de mes manques, est-ce que c'est la traduction? Peut-être que demain, je me remets à traduire, je trouverai autre chose. Forcément, voilà. C'est pas. Il y a tout le vocabulaire de la résurrection, alors que j'ai essayé, effectivement, de le préciser avec les différents verbes grecs. Mais aussi, c'est compliqué, puisque j'ai quand même mis le mot résurrection, parce que j'ai pas voulu l'abandonner totalement. C'est un beau mot, de toute façon.
C'est un beau mot, et puis surtout, son destin postérieur a été quand même... c'est un de ces mots qui a eu pas mal d'écho par la suite. Les scènes du tombeau, par exemple, m'ont paru entièrement nouvelles. Enfin, j'ai eu l'impression de revivre, ou de relire un peu, c'est de redécouvrir ce moment de...
Parce qu'il y a une chose, alors c'est une chose dont je suis assez content aussi, pardon, mais... Non, c'est... D'abord, c'est quelque chose qui est commun aux quatre évangiles. Ces quatre évangiles, c'est la tradition, des traditions diverses de restitution d'un enseignement. Bon, ça varie de l'un à l'autre, etc., même s'il y a des choses en voie. Mais il y a une chose qui ne varie pas dans ces quatre textes, et ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu le cœur du réacteur, c'est que ces quatre textes finissent sur la souffrance et la mort et la disparition du corps de ce rabbi. Voilà, on peut dire ça. Et ça, quand même, les quatre le racontent. Et il raconte à l'intérieur de ce narratif, il raconte quelque chose de mystérieux et qui, moi, m'a paru très impressionnant. C'est la stupeur, l'extase, au sens d'une extase sacrée, des femmes devant le tombeau vide. Et quand on lit le texte en grec, on se rend compte tout de suite qu'on est dans un vocabulaire de transe quasiment chamanique. Voilà. D'abord parce qu'elles tremblent, on est entre la vie et la mort, elles ont des apparitions de lumière et... Alors ça va très vite, hein, mais en même temps, c'est quand même, c'est comme des traces, quoi, de ça, et que de cette transe qui va être traversée, on retourne à la vie, ce qui est le cas de toutes les grandes transes chamaniques.
Frédéric Boyer, une dernière question pour conclure. Qu'est-ce qu'on traduit après les évangiles, justement?
Bah non, là, je sais pas.
Vous savez pas, vous n'allez pas.
Non, si j'ai plein d'envie, mais je ne sais pas. Là, ouais,
Rester dans le grec ou
non, j'aimerais revenir dans ma langue. Non, la langue que j'aime le plus, c'est le latin. Et bah, j'ai un petit rêve, c'est retraduire Cicéron, mais faudrait, je crois que j'ai un peu plus de temps.
On espère en tout cas lire un jour vos traductions de Cicéron. Les Évangiles, traduits par Frédéric Boyer, sont parus aux éditions Gallimard. Cet entretien littéraire était réalisé par Laure-Hélène Planchet, avec Manuel Couturier à la technique. Merci à Aurélie Marseille qui m'a aidé à préparer cette émission que vous pouvez réécouter et même podcaster sur le site de France Culture et l'appli de Radio France.